Donc j'arrive à la deuxième grande partie. Pourquoi et comment se met en place le temps d'angoisse? Petit 1, je pense qu'il y a d'abord un refroidissement du peuple de Dieu. Donc dans cette partie, je vais plutôt commenter les plaies d'Égypte. C'est un passage que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez similaire à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et puis il y a beaucoup de similitudes avec l'Apocalypse, donc c'est des textes qui se répondent. Comment sait-on, au moment des plaies d'Égypte, que avant ça, avant ces plaies-là, et avant la persécution de Pharaon, il y avait eu un refroidissement du peuple de Dieu? En fait, à la sortie d'Égypte, à la première épreuve, le livre des Nombres nous raconte que le peuple exprime ses regrets. Ils disent « Nous nous rappelons que nous mangions pour rien en Égypte les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, tandis que maintenant notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela, nous ne voyons plus que la manne. » Je trouve ça drôle parce qu'ils disent « notre vie s'étiole ». C'est-à-dire que c'est comme si on disait « notre vie n'a plus de sens » parce qu'il n'y a plus tous les mets savoureux qu'il y avait avant. Il y a un côté très un peu hédoniste, et c'est drôle. Et en fait, dans la parole de Dieu, ce qu'on va trouver, c'est que c'est toujours le peuple de Dieu qui se détourne de sa mission, et c'est pour ça que l'ensemble du peuple de Dieu, plus les païens, se retrouve à subir des épreuves comme des guerres, ou des pestes, ou des famines, en fait. Parce que le peuple de Dieu, normalement, il a la présence de Dieu au milieu de lui, et cette présence apporte une protection intérieure, c'est comme une ferveur intérieure, un lien entre les hommes, et apporte aussi une barrière qui protège l'ensemble de la nation. Par exemple, des chrétiens dans une entreprise, qui vont protéger l'entreprise par leur présence. C'est à la fois la présence et la barrière de l'Esprit-Saint qui est autour d'une entité, d'un pays. Donc, ces chrétiens, ou ces membres du peuple de Dieu, là on va plutôt parler d'hébreux dans le livre de l'Exode, ils sont le sel de la terre, normalement. Et leur vocation, même s'ils sont en petit nombre, c'est de saler toute la terre. Parce que une fois que la terre est savoureuse, c'est comme si le Seigneur pouvait se nourrir de toutes ces âmes qui montent vers lui, parce qu'elles ont été salées au contact de gens qui sont fervents. Donc à l'inverse, effectivement, dans des temps comme celui de l'Exode, on peut imaginer que le peuple s'était adonné à un peu trop, à la bonne chair, à certaines habitudes qui n'étaient pas bonnes. Et la religion du soleil en Égypte, ça va être le cosmos, ça va être un émerveillement devant le cosmos et un oubli que c'est d'abord Dieu qui a créé le soleil, la lune, etc. Et on finit par adorer les créatures au lieu du créateur. Petit 2, la rumeur de guerre et la montée de l'angoisse. L'exemple du peuple hébreu en Égypte, du temps de Moïse. Dans le livre de l'Exode, je me mets au chapitre 1. Alors un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se leva sur l'Égypte, et il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui, pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis. Il se battrait contre nous. Il sortirait du pays. » On lui imposa donc des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés, et il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Pitom et Ramsès. Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait, et plus il éclatait. On vivait dans la hantise des fils d'Israël. Alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité, et leur rendirent la vie amère par une dure servitude, mortier, briques, tous travaux des champs, bref, toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. Donc le début du texte, c'est le roi, le pharaon d'Égypte, qui a une angoisse. Il dit « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. En cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis. » Il semble que Pharaon occulte l'aide qu'avait apporté le patriarche Joseph, puisque il avait quand même plus ou moins sauvé le pays de la famine. Il avait eu cette interprétation du songe avec les vaches maigres et les vaches grasses. Il avait dit à Pharaon, il va falloir administrer ton royaume d'une certaine manière en récupérant tout le surplus de blé pendant 7 ans et ensuite en vendant le blé pendant 7 ans. Et donc il avait considérablement enrichi l'Égypte. L'Égypte est devenue très riche parce que les nations environnantes sont venues acheter du blé pendant des années, pendant les 7 années de famine. Pharaon accrédite l'hypothèse que le peuple d'Israël est digne de méfiance, voire même dangereux, ce qui s'appelle une rumeur de guerre au sens biblique. Au lieu de dire « ce peuple a été un allié pour nous », peut-être entretenons une relation renforcée avec lui pour voir s'il y aurait un danger à continuer à collaborer avec ce peuple. Lui, il décrète « ce peuple est dangereux ». Il y a quelque chose qui... J'avais parlé de la persécution dans une autre conférence, qui est sur le site justement, et j'étais arrivé, moi, en étudiant la persécution, à la conclusion que la persécution, elle vient contre des personnes qui incarnent la vérité. Quelqu'un qui essaie de vivre de manière juste, même s'il est pas, il peut être un peu tiède, va déclencher des persécutions parce que les égarements des gens qui l'entourent vont être mis en relief par la personne qui vit de manière un peu plus sobrement, qui va moins critiquer, moins dire de choses obscènes, qui va pas boire excessivement, etc. Donc le pharaon, il s'en prend au peuple de Dieu également parce que il n'a plus cette protection assurée par le peuple d'Israël au niveau de la prière, de la sainteté, et il ne va plus être en mesure de résister à la tentation de respecter le bien, le vrai, le beau, la vérité incarnée dans ce peuple, qui est un peuple saint, un peuple consacré au Seigneur. Donc Pharaon va accréditer cette hypothèse que le peuple est digne de méfiance, et il va créer un sujet fictif, ou même très exagéré, un mensonge, et donc quelque chose d'anxiogène. Il va proclamer quelque chose en haut lieu, si j'ose dire, et dans tout son royaume, ce qui va se répéter, c'est quelque chose qui tient du mensonge, ou au moins qui est exagéré, à défaut de dire que c'est un mensonge, en disant c'est un risque qu'il y ait ces personnes-là au milieu de nous. Donc je renvoie à un autre passage qu'on trouve dans le deuxième livre des Rois. C'est ce que dit le général assyrien Sennachérib quand il est envoyé pour encercler Jérusalem avec ses armées. Il déploie tous ses soldats, donc c'est le siège, et il va voir Ézéchias, le roi, avec ses émissaires, et il va employer un langage trompeur qui fait dresser les cheveux sur la tête aux habitants de Jérusalem, et Ézéchias, bien sûr. Ça agit un peu comme un rugissement, ça glace d'effroi, en fait. C'est-à-dire que c'est une forme de cri de colère déguisé qui va provoquer une forte angoisse. Pour moi, ça a été une aide de relire ces passages-là, dans 2 Rois 18, pour voir la manière dont il va dire quelque chose qui a l'air vrai, et puis petit à petit, il y a des contradictions qui apparaissent dans son argumentaire, qui montrent que quand il dit « votre Dieu est le vrai Dieu », il n'y croit pas vraiment, parce qu'il se permet de chosifier Dieu dans un deuxième temps. Vous voyez, il y a quelque chose de complètement fourbe, et ça fait naître une angoisse, en fait, vous voyez. Donc Pharaon, roi d'Égypte, sous prétexte d'un mensonge, déclare « prenant donc de sages mesures contre lui ». Il va utiliser en fait un slogan, un langage rhétorique, qui dit « mes mesures sont sages, deux points ». Et il va déclencher un certain nombre de choses. Donc la rumeur de guerre en fait s'accompagne d'éléments théâtraux. Il va faire des choses d'une manière extrêmement théâtrale. Donc je vais prendre un exemple pour... parce que je pense que c'est un texte aussi qu'on lit dans la liturgie. C'est le roi Akab en 1 Roi 21 qui lorgne sur la vigne de Naboth, quelqu'un qui est juste dans le peuple d'Israël, et qui lui dit « ma vigne, elle appartient à ma famille, je ne peux pas te la céder au roi ». Et sa femme Jézabel va lui dire « moi je m'en occupe, donne-moi ton sceau et moi je vais faire des choses ». Elle envoie des lettres au nom de son mari, le roi, et donc sous l'impulsion de Jézabel, le roi fait proclamer un jeûne, donc il demande à tout le monde « il faut jeûner maintenant, vous ne mangez plus, vous revêtez le sac, vous mettez de la cendre sur la tête ». Et ensuite, ils font une accusation publique de Naboth, ils le convoquent aux portes de la ville et ils lui disent « voilà ce que tu as fait, ça, 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 ça », pour que tout le monde connaisse que Naboth est quelqu'un de corrompu, alors que c'était quelqu'un qui était connu comme juste par tout le monde, c'était un ancien, il n'avait pas de problème de réputation particulière, il essayait d'être fidèle à son... C'est ce que raconte le texte, être fidèle à sa famille, en tout cas. Et ensuite, Naboth se fait lapider. Voilà. Le jeûne et l'accusation publique qui sont normalement utilisés pour des situations graves vont être comme un crépi ou un voile qui vont être utilisés pour masquer la haine et le mépris de Akab et de Jézabel, qui est encore plus haineuse que lui, semble-t-il. si vous voulez, ce déploiement de surenchère d'éléments théâtraux, c'est typique de la rumeur de guerre. Donc je reviens à Pharaon, qui fait de même. Il va être très démonstratif, il va changer l'équilibre de la société égyptienne en obligeant les gens à faire des travaux difficiles ou moins difficiles en fonction de s'ils sont hébreux ou égyptiens. Il va dire, vous n'avez plus le choix, maintenant les hébreux c'est les tâches ingrates, les égyptiens c'est le reste. Et il leur fait construire les deux villes entrepôts. Donc à ce stade, on peut voir peut-être six conséquences de la rumeur de guerre. Premièrement, première conséquence, d'après la tradition juive, Pitom et Ramsès, les deux entrepôts, Pitom veut dire cité de la justice, et Ramsès, enfant de Ré. Elles sont bâties sur le sang, ces villes, finalement. Puisque, en fait, cité de la justice, ça veut dire je vous fais construire quelque chose qui est profondément bon et juste, et enfant de Ré, ça veut dire chose qu'on construit et qu'on a obtenue grâce à ce Dieu qui est le vrai Dieu, c'est le Dieu du soleil. Il existe des traditions juives qui disent ces villes entrepôts, on dit miskenot, on les appelle comme ça parce qu'elles ont mis en danger, miskenot en hébreu, mis en danger leurs propriétaires, mais aussi parce qu'elles appauvrissaient, mas maskenot, ceux qui les construisaient. En fait, dans les commentaires juifs, ils retournent le mot en le déclinant un petit peu différemment, et ils disent ville entrepôt, c'est la même chose, c'est la même idée que mettre en danger et appauvrir. C'est-à-dire qu'on fait tourner la société de travers en faisant faire des choses à la société qui sont à côté de la vraie justice, quoi, qui sont à côté de la vérité. Une œuvre injuste qui va troubler peu à peu tous ceux qui essaient de faire leur travail en étant justes, chez les Hébreux et chez les Égyptiens, en fait. Ça va leur apporter un trouble. Donc ça, c'est la première chose, la première conséquence de la rumeur de guerre. Une deuxième conséquence, c'est un rabbin, un autre commentaire, qui va commenter ce verset, qui dit « Les entrepôts Pitom et Ramsès désignent une même réalité. Pitom, c'est son vrai nom, mais elle était appelée Ramsès parce que, lors de sa construction, chaque portion s'est écrasée. Et il se trouve que l'écrasement dans la Bible va désigner le fait d'être quand on est ralenti. C'est-à-dire, je vais courir pour faire quelque chose en utilisant des moyens qui sont mauvais. Par exemple, en me disant, je vais faire pression sur une personne de manière anormale. Eh bien, il va m'arriver des choses qui vont me presser le pied. C'est comme si mon chemin se refermait. C'est ce qu'on trouve dans la Bible, en fait, cette idée de que Dieu va nous manifester par des circonstances qui vont être contre nous et qui vont nous ralentir. Et donc, cette œuvre-là va être une œuvre bizarrement difficile à construire, dont chaque mouvement va être comme un écrasement, et on va se dire, ah, mais c'est curieux, parce que d'habitude, dans mon travail, les choses sont faciles, et là, je sens qu'il y a une lourdeur, en fait. Troisième conséquence, un autre rabbin dit que le vrai nom de cet entrepôt était plutôt Ramsès, mais qu'elle fut appelée Pitom parce que la bouche de l'abîme l'a engloutie en premier. Pitom, c'est comme ça qu'on peut le traduire. Bouche de l'abîme, moi ça me fait penser au puits de l'abîme de l'Apocalypse. Quand on fait le mal et qu'on fait des choses mauvaises, ça engendre une accélération des fléaux qui frappe l'humanité. C'est comme si on ouvrait une porte de l'enfer. Alors qu'un juste qui prie va ouvrir une brèche dans le ciel et faire pleuvoir les grâces. En fait, il y a deux mouvements antinomiques. Et donc le but pour les justes, c'est de demander pardon au Seigneur pour que les bouches de l'enfer se referment et de dire « s'il te plaît Seigneur » pour que les écluses du ciel s'ouvrent. Voilà, bouche de l'enfer. Quatrième conséquence, ça va provoquer une angoisse pour les Hébreux qui vont être persécutés. Forcément, c'est très angoissant d'être l'ennemi numéro un du jour au lendemain. Cinquième raison, ça provoque une angoisse pour les Égyptiens qu'on rend complice de ce régime de persécution. C'est-à-dire qu'on fait violence à la conscience des Égyptiens, qui vont se retrouver obligés d'arrêter leur travail si jamais c'était eux, par exemple, qui faisaient certains travaux qu'on juge accablants, d'un coup on déclare accablants, et on va dire, ben maintenant c'est toi, parce que ce travail c'est un travail qui est un moindre travail. Je vais m'approprier des travaux estimés mieux, estimés plus sur le dessus de la pile, si j'ose dire. Donc il y a une violence, ça fait comme un remaniement, je dirais, artificiel, qui va obliger des gens à exercer un autre métier qu'ils n'auraient pas forcément fait, et qui n'est pas plus bête que le métier qu'ils faisaient avant, ou le métier qu'ils faisaient avant n'était pas plus bête, mais c'est juste qu'aujourd'hui on considère que c'est les Hébreux qui sont censés le faire. Sixièmement, c'est le début de la danse des montagnes. Ça, je pense que c'est un signe des temps. La danse des montagnes, il faudra en parler plus longuement, mais ça va être le fait que les grandes références vont être changeantes. Et on n'est pas habitué à ça. Ça va être, par exemple, des lois qui vont changer sans arrêt. Alors qu'on est habitué à ce qu'il y ait une certaine stabilité dans les lois. Et ces lois vont se mettre d'un coup, on va changer, on va dire « Ah ben maintenant c'est comme ça, et puis maintenant c'est comme ça. » Et on le voit avec les phases que parcourt Pharaon. Alors, entre parenthèses, je ne vais pas parler du Covid pendant toute la conférence, parce que je pense que c'est assez explicite. On arrive nous-mêmes à faire des liens, et puis parce que je trouve ça intéressant de parler de la Bible avant tout. Je ferai quelques liens quand même, mais voilà, ça, je trouve qu'on parle beaucoup déjà de ces sujets-là. Donc ça vaut le coup de parler du projet de Dieu, et pour mieux comprendre les sujets d'aujourd'hui, bien sûr. Voilà, donc les lois changeantes. Et un deuxième élément qui fait danser les montagnes, qui fait que les montagnes éclatent de joie dans la perspective que le Seigneur revienne, ce sont les plaies envoyées par le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur va lui-même venir, et en avant de lui, comme un roi, il va y avoir des messagers qui vont dire « Le roi arrive, préparez-vous !» Il va y avoir des sonneurs de trompettes. Il va y avoir des personnes qui vont jouer de la musique. Vous voyez, un grand roi, il a un grand cortège. Et pour moi, toutes ces plaies, ce qu'on appelle des plaies, mais ces cataclysmes, ces bouleversements, ça va être comme le prélude du roi qui revient. Et ça va faire danser les montagnes. C'est-à-dire que les grands fondements qu'on connaît, les choses sur lesquelles d'habitude on s'appuie, par exemple, je vais me lever à telle heure le matin. Par exemple, les rapports humains, c'est je vais serrer la main à quelqu'un ou faire la bise. Par exemple, dans mon travail, je vais aller à mon bureau. Par exemple, lors des rassemblements, lors des fêtes, on va se réunir en famille. Ces éléments-là qui avaient l'air immuables et auxquels peut-être que je m'accroche parce que ça fait partie des choses bonnes que le Seigneur m'a données, eh bien, d'un coup, ces choses-là vont avoir la capacité de s'éclipser et de revenir. Et de s'éclipser, de revenir, et il y a un côté très anxiogène, finalement. On est habitué à quelque chose, on est un peu vieux, finalement. Mais même sans être vieux, c'est normal, humainement, de s'attacher à, je dirais, à un déroulement dans la journée. Quand on signe un contrat de travail aussi, c'est normal d'avoir des attentes en fonction du travail pour lequel on avait souscrit au départ. Cette danse des montagnes, moi, je le vois comme une obligation à revenir au présent et à retrouver le projet que Dieu avait pour nous, de nous accrocher de toutes nos forces à ce qui fait la joie du présent. Parce que le caractère anxiogène de ces périodes d'eschatologie, c'est aussi de vouloir trop anticiper des choses qui deviennent impossibles à voir, parce qu'en montagne, on ne voit pas la route au loin, quoi. Il n'y a que dans la plaine qu'on voit très loin. Eh bien, la plaine, ça va être plutôt le temps de paix. Les montagnes, ça va être le temps où les choses évoluent sans arrêt. Voilà les six raisons qui m'apparaissaient dans ce début de texte, quand on voit que le pharaon commence déjà à faire des changements et à proclamer des choses. J'avance. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Sifra et l'autre Poua, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Trop facile. Vous avez été sage-femme depuis des années, vous connaissez par cœur votre métier. Il y a juste un petit changement, c'est qu'il y a un enfant sur deux, il faudra le tuer. Mais bon, sinon, ça va être comme d'habitude. C'est la promulgation d'une loi liberticide. Donc ça va forcément heurter la conscience des sages-femmes, hein, et de tous ceux qui, peu ou prou, vont être au courant de la situation, parce qu'on se doute que ce genre de choses, ça se cache pas. Ça fait certainement monter d'un cran l'angoisse dans le peuple, de chez les Hébreux et chez les Égyptiens. Et puis, est-ce que les sages-femmes, c'est pas des personnes qui ont donné leur vie, toute leur vie même, pour transmettre la vie? C'est-à-dire faire naître des enfants et soigner les mamans afin d'éviter qu'elles meurent en couche. Parce que c'est quand même des personnes qui sont des pointures pour connaître toutes les situations possibles et imaginables pour éviter qu'une maman ne trépasse en couche. Et du jour au lendemain, on leur demande de renier leur vocation, ce qui fait qu'elles exercent comme ça. Et on leur dit, vous tuez les garçons comme si c'était une simple formalité. Un scandale plus profond dans le travail et dans la société. Et puis, sans parler de l'angoisse pour le peuple hébreu à l'idée d'enfanter, avec les tentations d'avoir une logique contraceptive, on le voit. La tradition juive dit que les chefs, à ce moment-là, le père notamment de Moïse, avait dit aux autres clans, on va arrêter de s'unir à nos femmes, comme ça, ça va limiter la casse. Et sa fille Myriam, qui était quelqu'un doté d'un talent de prophétie, un sérieux talent de prophétie, nous raconte la Bible, et puis là c'est la tradition juive plutôt qui raconte ce passage, et aller voir son père en disant, mon père, vous êtes encore pire que le pharaon, parce que en plus de tuer les mâles, vous tuez les femelles, enfin les filles. C'est-à-dire, vous empêchez même les filles de naître. Le pharaon, il voulait tuer une personne sur deux, bah, à cause de vous, même les filles ne naîtront pas. C'est-à-dire que si vous promulguez dans le peuple hébreu le fait d'être contraceptif, de dire c'est la sécurité qui nous pousse à faire ça, vous allez à l'encontre du projet de Dieu qui est un projet de vie, et vous dites à tout le monde que vous n'avez pas la foi, qu'il faut arrêter d'avoir la foi, que quand à la première grosse épreuve, on arrête d'avoir la foi. D'ailleurs, Myriam dira à son père, ben, puisqu'il a dit jeter les enfants mâles dans le fleuve, faites-le, vous verrez, on va mettre Dieu au défi. Et c'est ce qu'ils font. Du coup, ils mettent Moïse dans un... Donc en fait, enfin, je trouve ça beau, parce que c'est un acte de foi terrible de dire au Seigneur, une autorité me demande ça, après tout, c'est pas de trancher la gorge de mon fils, c'est de le mettre, enfin, de le jeter au Nil, ben, faisons-le intelligemment. Et puis elle suit quand même le panier, parce que je pense qu'il doit y avoir... Elle se dit, bon, je rattraperai le coup si jamais il y a un crocodile ou quelque chose. Bon, mais voilà, c'est quand même... enfin, c'est beau, je trouve. J'avance. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une descendance, Pharaon ordonna à tout le peuple, tout garçon nous venait, jetez-le au fleuve, toute fille, laissez-la vivre. Voilà. Donc là, maintenant, c'est plus les sages-femmes, parce que les sages-femmes, elles font pas ce qu'on leur demande, elles ont pas... Elles reviennent vers le pharaon en disant, mais c'est pas notre faute, à chaque fois les femmes elles accouchent juste avant qu'on arrive, on n'a pas eu le temps, elles trouvent des excuses, tout ça. Elles arrivent à trouver un langage pour répondre malgré leurs difficultés. Et maintenant c'est tout le peuple qui est censé appliquer cette loi. Exode 5, j'avance de 4 chapitres. En ce jour-là, le pharaon ordonna aux chefs de corvée et aux scribes du peuple, vous ne fournirez plus au peuple, comme auparavant, la paille pour fabriquer des briques, ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Imposez-leur de faire autant de briques que jusqu'ici, n'en réduisez rien, ce sont des paresseux. C'est pourquoi ils disent, allons sacrifier à notre Dieu. Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans rêvasser à des paroles mensongères. Donc, pour fabriquer des maisons, des briques, en Égypte, à cette époque-là, c'était une forme de torchis, il y avait besoin de paille et d'argile. Et ils avaient gardé encore à ce stade-là les travaux jugés les plus accablants, c'est-à-dire ramasser l'argile, aller creuser pour trouver de l'argile, et les travaux les plus légers pour les Égyptiens, c'est-à-dire ratisser et faire des bottes de paille pour qu'ensuite on arrive à mélanger les deux. Et là, Pharaon dit, maintenant, il va y avoir un chômage forcé. Comment on appelle ça aujourd'hui, on l'appelle ça comment, le chômage forcé? Où on rémunère quand même les salariés et ils n'ont pas le droit d'aller travailler. Ouais, un chômage partiel. Vous allez toucher un chômage partiel. C'est pas nouveau, hein. Vous avez touché un chômage partiel, vous n'avez plus le droit, vous devez les regarder. Et eux, ils vont devoir non seulement continuer à ramasser de l'argile, mais aussi s'occuper de la paille, donc multiplier le travail quasiment par deux. Voilà. Donc ça amène immanquablement à un renforcement du clivage entre les Égyptiens et les Hébreux, avec une tentation de que les Égyptiens prennent les Hébreux comme responsables de cette situation où eux-mêmes ils... Quand on n'a pas grand chose à faire dans ces journées et qu'on en y est contraint, c'est pas évident, en fait. Donc c'est angoissant pour les Égyptiens et les Hébreux, c'est source de division. Alors que c'est vrai que le chef d'un peuple est normalement là pour prendre des mesures qui créent l'unité dans son peuple. En fait, on n'est pas censé diviser les citoyens. Petit 3, différent 2, une nouvelle montée de l'angoisse. L'étape suivante, c'est le fait que Dieu intervienne de manière plus directe, plus franche. Parce qu'avant, il intervenait quand même à travers les circonstances, les événements, etc. Mais là, il va intervenir d'une manière où on va dire c'est Dieu. C'est les 10 fléaux d'Égypte, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. L'angoisse est déjà bien présente, et elle se renforce, et elle vient comme user peu à peu les Égyptiens. Pourquoi ? Puisque il semble que peu à peu, le peuple égyptien se rende compte que le pharaon ne peut pas les protéger, et d'ailleurs, il ne cherche pas à les protéger. C'est-à-dire que ces déploiements toujours de surenchère théâtrale de pharaon ne sont en définitive qu'une mise en scène de sa propre colère. Une manière de cacher le fait qu'il ait un compte à régler, et il va enrober dans ce mensonge et avec des choses très démonstratives. Et du coup, pour les Égyptiens, c'est de plus en plus angoissant de douter de plus en plus de « mais est-ce que ce responsable qu'on a ne se joue pas de nous ?» Voici quelques éléments qui renforcent l'angoisse des Égyptiens. Par exemple, Pharaon va faire appel à des magiciens qui arrivent à imiter Moïse et Aaron, au moins sur les premières plaies, parce qu'au bout d'un moment, ils n'y arriveront plus. Mais en fait, ils arrivent eux aussi à changer l'eau en sang, mais ils n'arrivent pas à refaire de l'eau. C'est-à-dire qu'ils disent « Regardez, nous aussi, on fait du sang, mais ok, mais plus personne ne peut boire, donc ça ne sert à rien. » Et quand Dieu a fait ça, en fait, Dieu montrait symboliquement « Vous faites couler le sang, puisque vous faites, je dirais, que la religion du soleil est quelque chose qui crée de l'injustice, qui fait qu'on se critique les uns les autres, qu'il y a des injustices dans la société, qu'il y a des enfants qu'on tue. Donc voilà, cette eau du Nil, je la change en sang pour vous montrer que tous les courants commerciaux, tous les prières que vous faites, tous les flux symbolisés par le Nil, voilà à quoi ça sert. Ça sert à faire du sang. Ben, je vous montre que ça fait du sang. Et au lieu de refaire de l'eau en disant on va se convertir, ça serait ça, refaire de l'eau. Ben, les magiciens disent, regardez, on est aussi, hop, magie, on fait du sang. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'anxiogène, parce que les magiciens de Pharaon, qui sont censés défendre Pharaon, en fait, ils défendent en apparence le fait que Pharaon est plus fort, mais en fait ça ne défend pas Pharaon. Parce que la vraie défense de Pharaon, ça serait de refaire de l'eau. Ça serait de dire, on va abreuver notre peuple, parce que pendant 7 jours, il n'y a plus d'eau. Ne pas boire pendant 7 jours, ça ne doit pas être évident. Deuxième chose angoissante pour les Égyptiens, lorsque Moïse propose de prier afin que les grenouilles s'en aillent, il lui dit « Quand est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Ce pharaon a l'air motivé pour que Moïse dise « Je vais prier pour toi. » Et Pharaon dit « Ben, demain, t'as qu'à prier demain. » Donc on imagine, il y a des grenouilles partout, dans les pétrins, dans les lits, dans les chambres, partout. Il y a des grenouilles qui font quoi, qui sentent mauvais, qui font leurs besoins, qui mangent tout, etc. Et Pharaon dit « Demain. » Il y a un côté orgueilleux, je dirais, qui est quand même très apparent, mais pourquoi il n'a pas dit aujourd'hui, quoi? Imaginons, notre enfant se fait casser la figure dans la cour, est-ce que tu veux que j'appelle l'école pour que ça s'arrête? Je le ferai demain. Aujourd'hui, tu vas encore supporter, et puis demain matin aussi, peut-être demain, en fin de journée, j'appellerai l'école, quoi. Bah oui, mais si ton enfant, il est persécuté dans la cour, tu agis tout de suite, quoi. Le demain, bibliquement, est quelque chose qui... Il faut mieux éviter de dire demain quand Dieu nous demande quelque chose, parce que sinon on fait comme Pharaon. Troisième chose qui renforce sans doute cette angoisse chez les peuples païens symbolisés par les Égyptiens, Pharaon ne prévient pas son peuple de la grêle. C'est-à-dire que Moïse vient le voir, et lui dit, il va y avoir de la grêle, dit à tout le monde de se mettre à l'abri, les hommes, les bêtes, tout ça. Et il ne le fait pas. Et... Donc certains serviteurs ont entendu et ont prévenu, et certains ont appliqué en disant « bon, on va faire », parce qu'on commence à voir que Moïse et Aaron, ils ont l'air d'avoir Dieu avec eux, mais une partie du peuple et des bêtes meurent. Quatrième chose qui est de plus en plus angoissante pour ces nations environnantes, c'est à la huitième plaie, les sauterelles ou les criquets, c'est que les serviteurs de Pharaon disent « laisse partir les hommes, ils te demandent d'aller faire un sacrifice à 3 jours d'ici ». Laisse-les partir, laisse tomber, quoi, tu t'acharnes. Donc on voit que, d'habitude, les serviteurs qui semblaient se taire devant leur chef commencent à prendre la parole. C'est pas rien. Je pense qu'à la cour de Pharaon, c'était pas tous les jours que ça se passait comme ça. Autre élément qui montre une angoisse qui se renforce sans arrêt, les Égyptiens vont confier aux Hébreux leurs objets précieux, parce qu'ils n'ont plus confiance en Pharaon. Ça, c'est l'ordre de la plaie des ténèbres. Il y a un transfert. Les objets précieux, c'est les Hébreux qui vont les garder, puisque avec les ténèbres, nous doutons que notre chef soit encore en mesure de nous protéger contre un vol, parce que c'est ces objets-là qui sont notre, les choses qui sont importantes pour nous. Nous sommes très matérialistes. Notre bonheur, c'est que nos objets soient placés entre de bonnes mains. Et dernier élément qui, d'après moi, je dirais, va secouer un bon coup ces nations environnantes, c'est que Pharaon va envoyer son peuple au casse-pipe en lui demandant par haine de suivre les Hébreux à travers la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il a fini par dire « Je vous laisse partir » et puis en fait il se dédie en mentant, en disant « Je regrette de les avoir laissés partir, qui va faire tous les travaux accablants maintenant que j'ai mis en place un régime où, de caste où les pauvres c'est les Hébreux et c'est eux qu'on a le droit de persécuter, c'est eux nos boucs émissaires. Finalement, ça m'arrangerait bien qu'ils reviennent. » Et il va envoyer son peuple au casse-pipe à travers la mer. C'est pas lui qui s'engage d'ailleurs à travers les flots. Et on sait comment ça va terminer.